Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les journées d'été des Verts à Pantin, le gouvernement qui reporte d'une semaine la présentation de son plan de relance économique, la colère et l'émotion après la découverte de tags négationnistes sur le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, en Côte d'Ivoire, l'investiture d'Alassane Ouattara en vue d'une troisième candidature à la présidentielle, enfin l'Union européenne qui veut voir un nouvel espoir dans l'annonce d'un cessez-le-feu en Libye. Nous serons en ligne avec le chercheur indépendant Patrick Emzad. Galvanisés par leurs récents succès électoraux aux élections municipales, Europe Écologie Les Verts et cinq autres partis écologistes ont lancé cet après-midi un appel au rassemblement en vue des régionales et des départementales de l'année prochaine. Un impératif à leurs yeux face, je cite, « au constat implacable fait par les scientifiques de l'accélération du changement climatique, du creusement vertigineux des inégalités sociales et de la dégradation des conditions de vie ». Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Anne, vous avez suivi les débats à Pantin cet après-midi. Dit cependant que les ténors phosphoraient sur les théories économiques, les participants échangeaient eux sur leurs expériences concrètes.
Voilà, vous l'entendez, des participants qui sont plus chauds que le climat et qui ont organisé tout à l'heure un clapping, comme ils disent, pour marquer le jour du dépassement. Cette journée encourage les participants à redoubler d'efforts. Sur les stands, Anne Lecor, elle a créé il y a 6 mois Printemps écologique, le premier éco-syndicat. 150 adhérents, pour l'instant c'est tout nouveau, mais ils sont une cinquantaine à le faire vivre, avec l'objectif de créer des communautés à l'intérieur des entreprises pour faire avancer la cause du climat.
C'est-à-dire que moi, je peux être très bien dans mon travail, aimer mon travail, mais ne pas être en adéquation avec les valeurs de mon entreprise sur l'écologie. Et je veux avoir une voix, je veux en parler dans le cercle de l'entreprise. Et on s'adresse à ces gens-là qui ont un peu cette dissonance entre ce que eux ont comme valeur et les valeurs de leur entreprise.
Juste à côté, Marie-Geneviève Lantaigne acquiesce. Elle a créé il y a 2 ans, avec d'autres citoyens, la première coopérative d'énergie d'Île-de-France. Il s'agit d'alimenter la part du renouvelable dans la distribution globale d'énergie en installant des panneaux photovoltaïques, sur les toitures du Grand Est parisien.
Aujourd'hui, on en a 5 qui sont, je dirais, sur les rails, avec des demandes de subventions à la région, des contacts avec les propriétaires des toits. On en a un qui est où les panneaux sont installés. Il manque encore le dernier échelon, qui est la connexion avec le réseau Enedis pour la distribution. Nous, on est les pionniers.
Des pionniers de longue date et qui le savent, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard, a scandé hier après-midi le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui tentera ce soir de faire la démonstration de sa stratégie pour 2021 et 2022.
Merci à vous, Anne Fauquemberg. De la Seine-Saint-Denis à la Drôme, où la France insoumise, elle, tient ses amphis d'été. L'une de ses figures, le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, s'emploie à critiquer de la sorte le plan dit de relance de l'économie du gouvernement. Quand on met 100 milliards d'euros sans aucune contrepartie écologique et sociale, ça veut dire qu'on prépare un monde de demain qui sera en fait celui d'aujourd'hui, celui du productivisme. Fin de citation. Bonsoir Nicolas Ballu.
Bonsoir.
Nicolas, ce plan qui devait être détaillé mardi prochain sera présenté une semaine plus tard en raison, Nicolas, de la crise sanitaire.
Oui, petit à petit la thématique du coronavirus s'est de nouveau imposée au fil de l'été à mesure de l'augmentation du nombre de cas en France et dans le monde, de la fragilité du contrôle de la situation et de la crédibilité toujours questionnée de l'État en matière de masques et de protection. Le gouvernement a été amené à rendre obligatoire le port du masque en entreprise, ainsi que pour les élèves de collège et de lycée. Les mesures entrent en vigueur dans 10 jours et le gouvernement ne peut pas se rater. Il est pleinement mobilisé, écrit son porte-parole Gabriel Attal, c'est-à-dire que les ministres eux-mêmes vont accompagner et garantir l'application des nouvelles mesures sanitaires. Il leur faudra régler les modalités précises, poursuivre les rencontres engagées avec leurs secteurs respectifs. Voilà ce qu'affirme le communiqué. Dans ce contexte, le plan de relance économique est repoussé. Le plan est prêt, reconnaît le gouvernement. Les principales mesures sont connues. Dès lors, il faut d'abord traiter l'urgence. Il existe une raison plus prosaïque à cela. On ne lance pas un plan de relance à 100 milliards d'euros sans lancer une grande séquence de communication. Ce n'était donc pas le bon moment. De ce point de vue-là, le souci pour le gouvernement est que même en fin de semaine prochaine, les Français auront encore plus la tête à la rentrée et ses péripéties.
Merci à vous Nicolas Ballu. La classe politique condamne unanimement les tags négationnistes relevés sur un mur du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1944, 642 morts, les hommes fusillés par les unités d'une division SS. les femmes et les enfants brûlés dans l'église. Sarah Ders, bonsoir.
Bonsoir.
Relevons, Sarah, que ce n'est pas la première fois qu'Oradour-sur-Glane est la cible du négationnisme.
Et cela fait déjà plusieurs années. L'un des tags apposés sur le mur du centre de la mémoire fait justement référence à des précédents. Le précédent, il a un nom, selon l'historienne spécialiste du négationnisme Valérie Higounet.
Je pense par exemple à un homme qui s'appelle Vincent Renoir, hein, un héritier de Robert Forisson, hein, qui d'ailleurs revendique qu'il est néo-nazi, hein, donc c'est pas rien, c'est aussi ça qui est entre guillemets intéressant. Et c'est un homme par exemple qui a réalisé une cassette vidéo qui a été diffusée et qui s'intitule « La tragédie d'Oradour-sur-Glane, 50 ans de mensonges officiels ». Ces lieux mémoriels sont... évidemment, j'allais dire, ciblé par nombre de négationnistes.
Même chose en 2014, deux personnes ont fait le geste de la quenelle sur ce lieu de mémoire, un geste évidemment antisémite. Alors, pourquoi Oradour-sur-Glane? Parce que, selon l'historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Dominique Lormier, c'est le symbole même de la barbarie.
Les négationnistes sont dans une réhabilitation du nazisme. Ils ne peuvent pas supporter le fait que le nazisme ait pu commettre des crimes et ils essayent de réinterpréter l'histoire à leur manière en essayant de donner une image totalement erronée, édulcorée et réductionniste de ce qu'a été l'hitlérisme.
Aujourd'hui, nier ou minimiser l'existence de faits historiques, notamment liés à la barbarie nazie, est incriminé par la loi depuis l'été 1990, depuis l'entrée en vigueur de la loi Guesso. Et avec cette loi, la contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale devient un délit. Une enquête a donc été ouverte.
Merci à vous, Sarah Ders. Il est presque 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. En Biélorussie, Alexandre Loukachenko ordonne à son ministre de la Défense de prendre les mesures les plus strictes pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Pays secoué par un mouvement de protestation depuis l'élection présidentielle controversée du 9 août dernier. De l'autre côté de la frontière, en Lituanie, où s'est réfugiée la principale figure de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, on manifeste également contre le pouvoir de Loukachenko. C'est un reportage à Vilnius de Gilles Gallinaro et Eric Biegala.
Tous les jours, ils sont là, une cinquantaine de Biélorusses, devant l'ambassade de Biélorussie à Vilnius, avec drapeau ou calicot rouge et blanc. La manifestation vise le pouvoir de Loukachenko, là-bas à Minsk, mais aussi directement ici, l'ambassade qui a participé au trucage du scrutin du 9 août, dénonce Darina, une étudiante.
Le jour du scrutin, plus de 400 Biélorusses, ici à Vilnius, n'ont pas pu exercer leur droit de vote. L'ambassade a tout fait pour que le moins de gens possible puissent voter. Les gens ont dû attendre dehors et n'ont pas pu rentrer pour voter. Moi, j'ai dû faire la queue pendant 6 heures.
L'opposition demande principalement une chose, l'organisation de nouvelles élections. Vitali, lui aussi dans la manif, croit la chose possible.
Les gens se rassemblent toujours. Il y a des milliers de personnes qui manifestent à Minsk et dans d'autres villes. On espère vraiment que le gouvernement écoutera et entrera dans une sorte de dialogue avec les représentants de l'opposition.
On n'en prend pourtant pas le chemin. Loukachenko vient tout juste de lancer des poursuites pour atteinte à la sécurité de l'État contre les membres du tout nouveau Conseil de coordination de l'opposition, constitué en début de semaine.
Quatre soldats maliens meurent au passage de leur véhicule sur un engin explosif dans le centre du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. À Bamako, la capitale du Mali, début des pourparlers entre la junte militaire et une délégation de la CDAO, la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire, où de nouvelles violences ont eu lieu ce samedi, dans le sillage de l'annonce de la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, officiellement investi par son parti à Abidjan. Divo, région de production du cacao, des affrontements ont eu lieu entre jeunes de l'opposition et ceux du parti au pouvoir, Alassane Ouattara, qui lui emprunte au jargon de la boxe et prétend l'emporter en octobre prochain par KO. Abidjan, Amandine Réau.
Devant des dizaines de milliers de militants venus de tout le pays, Alassane Ouattara dénonce les violences qui ont fait 6 morts la semaine dernière. Sans les nommer, il accuse ses adversaires de manipuler la jeunesse.
Ce sont des périls. On n'a pas besoin de brûler des arbres. On n'a pas besoin de casser des voitures. On n'a pas besoin de brûler des maisons. On n'a pas besoin d'instrumentaliser les jeunes. Allons-y aux urnes.
L'opposition juge inconstitutionnelle la candidature de Ouattara à un troisième mandat, mais les militants ont une autre interprétation.
C'est pas un troisième mandat. Et il faut préciser la chose, c'est un premier mandat de la Troisième République.
On aime les gens qui veulent travailler, même quatrième mandat, nous on veut.
Dans un discours d'un peu moins d'une heure, Alassane Ouattara vante son bilan. Il dit avoir développé davantage la Côte d'Ivoire en 9 ans que ses prédécesseurs en un demi-siècle.
Un coup KO.
Et entend remporter l'élection en un coup KO, soit dès le premier tour.
Reportage à Abidjan d'Amandine Réau. L'Union européenne veut y voir un nouvel espoir en vue d'une solution pacifique. Les 27 qui commentent aujourd'hui l'annonce d'un cessez-le-feu en Libye et d'une reprise du processus politique. Notre pays assiste à un réveil dans le bon sens avec une volonté de rompre avec la folie d'hier, déclare Mehmed Shoaib, chef de la délégation du Parlement, qui avait ardemment travaillé à la signature de l'accord politique de Skhirat conclu en 2015 au Maroc sous l'égide des Nations Unies en vertu duquel a été créé le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, le GNA, versus Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, soutenu par une partie du Parlement élu et son président Aguila Saler. Nous sommes comme convenu en ligne avec Patrick Mzadeh, chercheur indépendant et spécialiste de la Libye. Bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir.
Patrick Mzadeh, ces engagements dont on vient de parler, qui sont commentés comme on vient de le souligner, ces engagements viennent-ils des Libyens ou bien des pays qui ont intercédé, des pays impliqués dans le conflit?
Je pense, tout d'abord, c'est une déclaration qui vient des Libyens eux-mêmes, donc ça c'est un fait très important. Bien sûr, ils ont sûrement consulté leurs grands-parrains, hein, mais c'est d'abord quelque chose qui vient des acteurs locaux eux-mêmes. Alors, ça, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'une bataille éventuelle sur site ne pouvait pas être gagnée par aucune des deux parties, et donc qu'il fallait revenir à une solution politique. Alors, ça, c'est très important, parce que ça montre que, finalement, le dialogue n'est pas rompu, hein, contrairement à ce qu'on entend souvent, comme quoi il pourrait y avoir sécession ou scission du pays. Les gens se parlent en Libye et il y a une certaine rationalité des acteurs qui fait passer l'intérêt national avant les priorités politiques. Alors bien sûr, les querelles politiques ne sont pas terminées. Ce qui est important de souligner, c'est que les deux acteurs majeurs de ces accords, enfin de ces déclarations annonçant un retour, un cessez-le-feu et un retour du dialogue politique, sont à l'Est le président du Parlement, hein, on n'a pas entendu le maréchal Haftar, hein, que vous présentez souvent comme l'homme fort, mais qui, contre toute attente, n'est plus dans l'équation politique pour le moment. Hein. Il faut savoir que l'Égypte, qui était le principal soutien du maréchal Haftar, a applaudi les déclarations d'hier, a encouragé ce processus, avant même qu'il y ait une réaction, ou une non-réaction plutôt, du maréchal Haftar. Donc ça, c'est important aussi. S'agissant de la France, bien sûr, je pense qu'elle n'est pas dans l'équation pour l'instant. Hein, c'est des choses qui se sont faites entre Libyens avec un soutien des Nations Unies. Donc ça veut dire aussi un retour d'un rôle accru des Nations Unies. Et bien sûr, en arrière-plan, sûrement, un feu vert des Russes et des Turcs. Hein, qui sont les principaux soutiens des deux parties.
Difficile d'imaginer que ces deux pays ne soient pas intervenus. Effectivement, à quelle première étape travailler, selon vous? Il nous reste une petite minute, Patrick Mzadeh.
Dans un premier temps, il faut revenir à ce qu'on appelle le processus initié à Berlin en fin d'année. Donc ça veut dire un forum politique à Genève dans les prochaines semaines, avec une présence élargie, c'est important. C'est-à-dire qu'il faudra, au-delà de ces deux acteurs, une inclusivité beaucoup plus grande, et ensuite l'idéal ce serait effectivement la refondation d'un nouveau gouvernement d'union nationale avec un accord de toutes les parties, et puis ensuite une conférence nationale qui puisse revenir à l'idée d'une feuille de route et d'une charte nationale pour aller vers des élections, ce qui est effectivement l'objectif qui a été réaffiché par les deux parties.
Bien, merci. Merci beaucoup Patrick Mzadeh d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant et que vous vous intéressez depuis de longues années à la Libye. Quelques mots de la météo de demain dimanche pour la France métropolitaine. Temps ensoleillé et venteux sur le sud-est, variable ailleurs. Demain matin, il fera de 12 à 17 degrés en général, 18 à 22 sur les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon, à la technique Edouard Rubinstein.